Bretagne 5. Écoutez la Bretagne. Bretagne 5. L'invité de la matinale.
Et notre invité politique en ce jeudi matin est Tanguy Métrope. Il est membre du Conseil national du Modem pour la Bretagne. Il a fait la route depuis 10 ans pour être avec nous en direct dans la matinale. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour Stéphane Hamon et merci pour votre invitation.
Alors on va parler de politique, ça ne vous aura pas échappé. Et on va parler aussi des municipales. Il y a beaucoup de choses à dire sur les municipales, mais j'avais envie d'ouvrir, comme je fais presque chaque matin depuis un long moment avec mes invités, sur cette situation politique qu'on qualifie de chaotique, avec ce budget dont l'accouchement est long et difficile. Justement, le budget, le PLFSS a été voté. 13 voix, c'est pas grand-chose. On dit, en tout cas les observateurs s'accordent à le dire, que le budget de l'État risque de ne pas être voté. On est dans la dernière ligne droite de ce marathon pour voter le budget. C'est quand même source d'inquiétude. Hein.
Oui, tout à fait. Alors, pour ceux qui nous écoutent, il faut rappeler que là, ce qui vient d'être voté, c'est le budget de la Sécurité sociale, donc PLFSS, le plan de financement de la Sécurité sociale. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est un soulagement. C'est un soulagement parce qu'il faut essayer de se projeter. Qu'est-ce qui aurait pu se passer si le budget n'avait pas été voté, vous l'avez dit, de très très peu, de 13 voix? C'est simple, les comptes de la Sécurité sociale auraient pu dériver, déraper. Donc, on aurait pu aller sur un déficit de 30 milliards. Là, avec le vote qui a été obtenu, donc adopté avant-hier, on va rester sur des dépenses autour de 20 milliards et peut-être même Amélie de Montchalin, la ministre du budget, disait peut-être en dessous de 20 milliards. Donc déjà, voilà, les comptes de la Sécurité sociale ne dérapent pas. Ça, c'est quand même un premier acquis. Et ensuite, c'est un soulagement parce que il y a pas mal de gens qui ont voté contre et moi, je voudrais quand même dire que derrière, c'est quand même la Sécurité sociale, ça nous concerne dans notre quotidien tous les jours. Et par exemple, dans les avancées, donc voilà, même s'il n'est pas parfait ce budget, il n'est pas parfait, il est insatisfaisant.
J'allais vous poser la question, justement. Oui. On entend beaucoup de voix, que ce soit à gauche, que ce soit à droite ou aux extrêmes, mais aussi au centre, qui ne sont pas satisfaites de ce budget.
Oui, mais forcément, on est dans une majorité. Il n'y a pas de majorité aujourd'hui à l'Assemblée. Donc forcément, il faut faire des compromis. Mais ce n'est pas un gros mot, les compromis. Voilà, donc moi, je voudrais quand même saluer les députés qui ont pris leurs responsabilités pour voter ce PLFSS, parce que c'est vraiment important pour le pays. Et donc, effectivement, on a obtenu un vote avec les socialistes, avec même des écologistes qui se sont abstenus. Voilà, avec la droite qui finalement l'a voté en partie. Bon, voilà, je sais que ça a créé des réticences. Mais je voudrais dire à ceux, par exemple, qui ont voté contre, et j'entends déjà à l'extrême gauche, la gauche radicale, la France insoumise, parler de socio-traîtres pour les socialistes. Et puis maintenant, même le Rassemblement national parle de socio-traîtres pour la droite. Donc moi, je vais finir par proposer aux gens, on va faire une alliance des socio-traîtres. Voilà, c'est ça qui va se passer. Mais je voudrais quand même donner, pour les électeurs qui nous écoutent, qu'ils soient RN ou LFI, par exemple, a été voté hier... avant-hier, un congé de naissance. Voilà, congé de naissance, bon, pour les jeunes parents, etc. Bon, par exemple, pour la droite qui nous vante une politique familiale, on va avoir un congé de naissance qui va se rajouter au congé maternité, au congé paternité. Donc, vous êtes contre? Est-ce que les électeurs sont contre ce congé de naissance qui va se rajouter à partir du 1er janvier? Donc, moi, je trouve que pour les familles, c'est quand même une avancée. Donc, il y a des choses comme c'est une avancée sociale. On parle de la sécurité sociale, là. Deuxième chose, par exemple, il y a eu... Alors, ça fait grincer des dents, les hausses d'impôts. Oui, il y a une hausse de la CSG sur les revenus du patrimoine. Mmh. Sur les revenus du patrimoine. Alors certes, il y a des débats, mais moi je préfère qu'on fasse une hausse de la CSG qu'une hausse de la TVA. Voilà, c'est ça un compromis aussi. Et pour nous, en tout cas au centre et pour le mouvement démocrate que je représente, on a voté, tout le groupe a voté le budget PLFSS. Faire des compromis, c'est pas un gros mot. Nous, on n'est pas manichéens, hein, c'est pas les bons contre les méchants, donc on est prêt à faire des compromis. Et quand je vois ce qui se passe en Europe, qui a une culture du compromis, franchement, je me dis comment ils doivent nous regarder, nos voisins européens, nous qui sommes incapables de faire le moindre compromis sans qu'on se fasse accuser de traître. Donc oui, nous ne sommes pas des traîtres, nous, on a la culture du compromis. Et je crois vraiment que c'est le mal français, cette volonté de ne pas faire des compromis Et c'est ancien, c'est très ancien, c'est vraiment le mal français.
C'est ancré finalement dans, oui. dans la politique et dans la façon de faire de la politique. Justement, est-ce que cette crise que l'on traverse, dont on ne sait pas où elle va nous conduire, il faut bien dire les choses en face, est-ce que cette crise finalement va peut-être, au moins pour les nouvelles générations en politique, apporter une autre façon d'appréhender la politique, de justement de faire de la politique finalement. Ça nous amènera au terrain tout à l'heure, au municipal justement.
Oui, et puis je crois que par rapport à la culture qui est la nôtre au centre, je pense que là, il y a vraiment quelque chose à défendre dans la culture du compromis. Construire des compromis, on le voit au Parlement européen, et puis je salue notre ancienne députée européenne qui est aujourd'hui au gouvernement, Marie-Pierre Védrenne, mais elle nous explique comment ça fonctionne au Parlement européen. C'est la culture du compromis, de la négociation. Ça ne doit pas être un gros mot, ça. Voilà. Et donc, moi, je pense que c'est aussi ce qui a fait que la France est un peu allée dans le mur depuis plusieurs années, c'est qu'on a rejeté ce compromis. Et je voudrais raconter une anecdote que m'avait raconté Pierre Ménury, parce que l'année dernière, on a fêté les 100 ans du Centre de la démocratie chrétienne. Et aujourd'hui, il y a un colloque à Paris avec Pierre Ménury sur l'histoire avec les anciens du MRP, voilà, donc tout ce mouvement de la démocratie chrétienne d'après-guerre. Et Pierre Ménury me disait, en 1988, quand Michel Rocard arrive Premier ministre, il n'a pas de majorité absolue, donc il a une majorité relative. Et Pierre Ménury dit, on va essayer de s'opposer autrement. C'était le CDS à l'époque, le Centre des démocrates sociaux. Et... À un moment donné, donc il y a plusieurs votes, il y a le RMI, il y a les accords de Nouméa sur la Nouvelle-Calédonie, et puis il y a la CSG justement, hein, qui est votée par Michel Rocard, qui est proposée par Michel Rocard. Et Michel Rocard n'a pas de majorité. Et donc là, le centre prend ses responsabilités pour permettre de financer d'une autre manière la sécurité sociale, d'élargir l'assiette du financement, pas les faire porter que sur les salaires, on vote la CSG. Et à un moment donné, donc le centre vote avec Michel Rocard, et Michel Rocard, quelques semaines après, va voir Pierre Ménury dans les couloirs de l'Assemblée et lui dit « Écoute Pierre, c'est authentique, hein, ce que je vous dis c'est authentique, écoute Pierre, arrête de voter mes lois parce que je commence à avoir des problèmes avec ma propre majorité. » C'était en 1990, il y a 35 ans, le vote de la CSG avec Michel Rocard. Donc on voit un peu, hein, on dirait que voilà, il y a des bastilles assiégées qu'on peut pas franchir, et c'est tout, ça a quand même paralysé la France pendant des années. Donc aujourd'hui qu'on fasse sauter un peu ces parapets pour faire des compromis avec d'autres partis, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite par moment, bah nous au centre évidemment ça nous convient. Et je pense qu'il faut défendre un peu cette politique du compromis.
Alors qu'on voit un durcissement de la vie politique, vous faisiez référence tout à l'heure à la France insoumise ou au Rassemblement national, on a l'impression que, alors là c'est un petit peu le fait des deux quinquennats d'Emmanuel Macron, où il a cherché un peu à aplanir la vie politique, et finalement ça n'a peut-être pas eu le résultat qu'il attendait, puisque là on se retrouve quand même avec deux extrêmes très puissants.
Oui voilà, alors effectivement c'est un peu le problème aujourd'hui, avec une majorité au Parlement qui est très instable, mais revenir à une culture parlementaire, que le Parlement reprenne ses prérogatives de voter la loi, d'avoir des discussions de budget. Hier soir, on était en Conseil national du Modem et le président de notre groupe, Marc Fesneau, nous disait, là, on avait, pour le PLFSS, on a eu une vraie négociation. Vraiment, chacun a fait ses propositions. Avant, il y avait la majorité, tout le monde votait, il y avait à peine de discussion. Sinon, c'était le 49-3, voilà, on en reparlera peut-être.
Mais là, le Premier ministre a choisi de ne pas l'utiliser.
Voilà, tout à fait. Et je pense que c'est tout à son honneur aussi, c'est-à-dire de permettre aux députés de voter. Parce qu'évidemment, un député qui, on lui enlève son droit de vote, forcément derrière, il peut ne pas être très content. Il est fait pour ça, le député est fait pour voter les lois, donc on l'empêche de voter avec le 49-3, ça ne va pas. Mais hier, il nous disait, Marc Fesneau nous disait, là ce qui s'est passé avec ces discussions sur le PLFSS, je pense que ça va changer la culture du Parlement et on ne pourra plus faire des budgets comme avant, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc quelque part, c'est un point en plus pour le gouvernement et c'est un point à mettre à l'actif du Premier ministre Sébastien Lecornu qui a bien tenu sa ligne, pas de 49-3 et il a obtenu quand même un vote, voilà. Donc c'est une victoire pour lui.
On le disait, fini Sébastien Lecornu, on s'est dit, en tout cas les observateurs, là encore, les journalistes que nous sommes, en disant voilà, si la loi ne passe pas, si le PLFSS, la fameuse loi sur la sécurité sociale, le financement de la sécurité sociale ne passe pas, voilà, il n'y aura pas de Lecornu 3, il va partir. Est-ce qu'il est en train de réussir son pari, Sébastien Lecornu ?
Alors, il a passé la première étape. Il ne faut pas oublier que si on se replonge il y a un an, Michel Barnier était tombé sur le PLFSS, justement. Hein, donc, il avait passé un 49-3 et derrière, motion de censure. Donc, il était tombé sur le PLFSS. Donc, là, premier obstacle, c'est passé pour Sébastien Lecornu. De peu, 13 voix, mais c'est passé. Et quand même, il n'y avait pas eu de vote depuis 2022. Donc, je comprends qu'ils sortent un peu de cette séquence quand même avec de la satisfaction parce que sa méthode a fonctionné. Alors, le deuxième obstacle, c'est le budget, donc ce qu'on appelle le PLF tout court. Là, c'est le budget de l'État. Et effectivement, là, ça risque d'être plus compliqué. Alors, qu'est-ce qui peut se passer ? Vous disiez déjà tout à l'heure que ça peut être un peu plus risqué. Ben effectivement, je pense qu'il faut qu'il a dit pas de 49-3. Alors hier, on discutait un peu entre nous en disant, même Marc Fesneau disait, ce qui va se passer si on voit qu'on est dans l'impasse, l'idée d'un 49-3 risque de s'imposer de lui-même. Et là, on comprend le fonctionnement des institutions. On comprend que finalement, pour gouverner, voilà, parce qu'il faut un budget. Alors on nous dit, oui, alors il peut tenir en disant pas de 49-3. L'alternative, c'est simple, c'est un vote déjà. Est-ce qu'on peut obtenir ce vote? Ça peut être compliqué. Sinon, il y aurait la fameuse loi spéciale. Mais la loi spéciale, ce n'est pas une loi de finances publiques. Ça permet juste à l'État de faire quoi? De lever l'impôt et de payer les fonctionnaires. Mais ce n'est pas une loi de finances publiques. Donc l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu que François Bayrou fasse voter un budget de PLFSS et de budget de l'État. Il faudra de toute façon à un moment donné l'adopter. Alors c'est mieux par le vote, et sinon, oui, est-ce qu'on ne peut pas tout à fait exclure qu'il y a un recours au 49-3. Donc moi je ne lis pas dans le mar de café, mais je pense que ce sera l'un ou l'autre. Alors je préférerais 149-3, parce que je pense que c'est mieux pour la culture du Parlement, mais je ne peux pas l'exclure aujourd'hui.
Avec le risque d'une motion de censure qui serait déposée, la France Insoumise l'a déjà dit, qu'il y aurait un dépôt de motion de censure, qu'on peut imaginer voter et par la France Insoumise et par le Rassemblement National, peut-être d'autres députés dans d'autres formations politiques. Ça peut être risqué là aussi pour Sébastien Lecornu. On peut être un peu sur la ligne rouge à cet endroit-là.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, qui dit 49-3 dit risque de motion de censure. Et donc, faire tomber le gouvernement, ça nous replongerait dans une forme d'instabilité qui est chronique depuis la dissolution de 2024. Donc, moi, je crois que c'est aussi cette volonté de stabilité politique qui explique un peu le vote d'un certain nombre de députés. On a vu, même au sein du bloc central, à Horizon, un peu que ça coinçait sur les questions des impôts. Et à droite aussi, ça coince. Mais, quelque part, c'est mieux, c'est un moindre mal que l'instabilité politique. C'est pour ça que LR, ça a un petit peu secoué au niveau de la droite. Mais je pense qu'effectivement, il faut appeler à la responsabilité. Ces budgets ne sont pas satisfaisants, mais dans la situation actuelle, on ne peut pas vraiment faire autrement. Peut-être que les grandes questions, elles sont repoussées à plus tard, mais en ce moment, en tout cas, on apprend au Parlement la culture du compromis. Et moi, je trouve que voilà, c'est le point positif que j'ai envie de retenir de ces séquences. Donc j'espère qu'on arrivera à un compromis sur le budget, sur le PLF aussi, avant la fin de l'année.
Avec, là aussi, des inquiétudes, les inquiétudes du monde économique, les inquiétudes des Françaises, des Français qui se disent, on a de plus en plus de mal à vivre, comment retrouver peut-être un petit peu de pouvoir d'achat. Là aussi, il va falloir que ces grandes questions arrivent très vite devant les députés, qu'il y ait des... Alors là encore, peut-être même hors budget, mais qu'il y ait une réflexion autour de ces grandes inquiétudes. On parlera aussi de sécurité tout à l'heure. C'est une inquiétude des Français. Il va falloir qu'après cette séquence difficile, il y ait une réflexion.
Oui, tout à fait. Faut pas oublier que les Français, cette séquence du budget commence à être longue un peu. Donc les gens, ils commencent un petit peu à en avoir marre.
Parce qu'ils faut bien avouer aussi, pardonnez-moi, mais qu'ils ont parfois du mal à suivre en ne comprenant pas pourquoi il y a plusieurs votes, pourquoi il y a le PLFSS, pourquoi il y a le PLF tout court. C'est pas évident non plus.
Voilà, tout à fait. C'est pour ça que j'ai essayé de réexpliquer d'abord budget de la sécurité sociale, puis budget de l'État. Donc je pense que c'est un petit peu important de réexpliquer la séquence un peu budgétaire, mais qui commence à être longue. Et derrière, la réalité des difficultés que connaissent les Français et qu'on peut tous connaître, elle est là. Et notamment sur le pouvoir d'achat, vous avez tout à fait raison. En fait, depuis la crise inflationniste, depuis l'inflation, il y a une hausse des prix. Alors aujourd'hui, c'est un peu ténu, mais est-ce que les prix au supermarché, dans les petits commerces de centre-ville, est-ce que ça a baissé? Pas vraiment, en fait. Et donc, on voit bien que quand on fait ses courses, on voit bien que les gens, ils regardent les prix, ils se disent... Mais j'ai dépassé 100 euros, là, j'ai quasiment rien dans mon caddie. Donc ça, c'est vraiment une question. Et donc, il va falloir quand même s'atteler à cette question du pouvoir d'achat. Et nous, au Modem, on a toujours pensé que la question, c'est une meilleure rémunération du travail. C'est quand même ce sujet qu'il faudra, à un moment donné, soulever. Donc j'espère que ces grandes questions que les Français attendent, hein, régler leurs problèmes du quotidien. J'espère vraiment que après cette séquence budgétaire, on rentrera quand même dans le vif du sujet pour améliorer le quotidien des Français. C'est ce que les gens attendent et c'est aussi le rôle des députés et du Parlement.
Je vous ai promis tout à l'heure, Tanguy Métrope, que nous parlerions des municipales, mais ça va être en fait peut-être un test national, ces municipales, il faut bien le dire, une sorte de pour ou contre. Justement, on voit aujourd'hui les formations politiques commencer à sortir du bois, si vous me permettez cette expression un peu triviale, et puis des voix, ou plutôt des figures. Et je pense à Nicolas Sarkozy qui vient de publier son livre autour de son expérience en prison, un livre d'ailleurs qui a un succès assez important, si l'on en croit les images qu'on a vues à la télévision lors des signatures de ce livre, il s'est exprimé dans les colonnes du Point, de nos confrères du Point, Nicolas Sarkozy, en disant, entre autres, qu'il avait eu une conversation avec Marine Le Pen et qu'il n'appellerait pas un front républicain, trouvant aussi, dans une autre partie de cette interview, que Jordan Bardella avait un petit air de Jacques Chirac en son temps. J'avais envie de vous entendre sur l'analyse de l'ancien président.
Oui, alors c'est vrai que j'ai lu son interview dans Le Point. J'invite vraiment les gens à la regarder de près avant de lire son récit de prison, hein, qui certes, je comprends, un président qui est incarcéré, ça choque. Mais il faut voir que derrière, il y a des vrais sujets. Attention, hein, il y a quand même des attentats en Libye, enfin avec les Libyens, enfin. Tout ça, c'est quand même pas très clair. J'invite vraiment les Français à regarder de près pourquoi est-ce que la justice l'a condamné, déjà à deux reprises, hein, parce qu'il y a trois affaires. Il y a trois affaires. Voilà. Mais son interview, si on réfléchit un petit peu, moi, je suis un petit peu inquiet de la tournure que prennent les événements à droite. Parce que, en fait, on voit qu'il y a deux courants à droite qui s'opposent. Il y en a qui voudraient peut-être faire un petit peu sauter les digues avec le Rassemblement National, ce qu'on appelle un peu l'union des droites, qui est assez tendance, et certains électeurs d'ailleurs le réclament.
On entend d'ailleurs beaucoup de voix, alors plus, on va dire, chez Reconquête, entre autres, je pense à Sarah Knafou, qui plaide pour l'union des droites, j'allais dire des gauches, des droites. On a entendu Marion Maréchal également, qui a un discours sensiblement semblable. Elle est possible, selon vous, cette union des droites ?
Moi, je pense que il y a des gens qui en ont envie, mais qu'elle n'est pas souhaitable. Et justement, il y a des grandes figures de la droite, mais justement de la droite gaulliste, qui se sont érigées contre cette position. Et moi, je voudrais saluer les positions de au moins trois personnes, qui sont Dominique de Villepin, qui sont Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, qui ont tous les trois dit la même chose. Pas d'alliance avec le RN. Pas d'alliance politique. Et ils sont, de ce point de vue, cohérents par rapport à ce qu'avait dit Jacques Chirac avant, mais même par rapport à cette posture gaulliste, et même posture gaulienne. Et moi, je suis historien de formation, et je crois que si je devais écrire une biographie sur Nicolas Sarkozy, je pense que je l'intitulerais « Le fossoyeur de la droite gaulliste ».
Parce que
il n'a pas aimé, mais je le salue d'ailleurs s'il m'écoute. Mais je pense que l'histoire jugera que même dès 2007, et on comprend mieux un peu la position de François Ayrou dès 2007, car il a senti que les digues, déjà à l'époque, pouvaient être poreuses avec le Front National à l'époque. Et en fait, ça confirme un peu cette tendance. Et que les digues soient poreuses, je pense que la droite gaulliste, moi, je l'appelle à réagir et au sursaut. Donc, je salue vraiment la position de la droite gaulliste qui veut renforcer cette digue avec le Rassemblement National. Parce que, comme l'a dit Valérie Pécresse, ce serait la mort de la droite républicaine. Et c'est ce que je pense vraiment. Moi, je m'entends très bien avec des gens de la droite gaulliste et de la droite républicaine avec qui on peut partager un certain nombre de valeurs. Je leur dis, dans ce moment difficile, de ne pas forcément écouter les sirènes de l'ancien président et de rester solides sur leurs valeurs et solides sur les valeurs du gaullisme qui sont incompatibles avec une alliance politique avec le RN.
Alors justement, beaucoup de jeunes se tournent vers le Rassemblement National, d'autres vers la France Insoumise. On voit une forme de politisation des jeunes. Ils n'ont pas peut-être la référence de l'historique du Rassemblement National, le Front National en son temps. Est-ce que c'est quelque chose de dangereux, selon vous, que la jeunesse adhère sans forcément avoir tous les éléments ?
Alors, effectivement, il y a une jeunesse qui vit avec son temps, et aujourd'hui, le temps est à la radicalité. Donc effectivement, quand on est jeune, voilà, quand on est un peu un esprit de révolte, voilà, de rébellion, de rebelle, on est dans cette pente naturelle qu'est la radicalité. Alors néanmoins, il existe des jeunes modérés, et je salue les jeunes démocrates, forcément, les jeunes démocrates de Bretagne notamment. Voilà, mais ils me disent effectivement, on est un peu coincé, nous, entre une jeunesse qui se radicalise à la fois du côté de la gauche radicale et de Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, et puis de l'autre, du côté du Rassemblement national, avec une fascination effectivement pour un nationalisme. Et on a vu l'enquête de la Croix, fait par les jeunes au début du mois de septembre, à la fin du mois de septembre, où une grande majorité de jeunes disaient il nous faudrait un Poutine français. Donc pour le prof d'histoire que je suis, ça inquiète, et je pense qu'il va falloir qu'on reprenne quelques bases sur le plan de l'éducation civique pour qu'on n'oublie pas les leçons de l'histoire. Je pense qu'il faudra quand même faire attention là-dessus, parce que cette fascination, elle a déjà existé dans le passé, et c'est dangereux pour la République française. C'est un danger à éviter.
Il y a néanmoins un effet Jordan Bardella, qui est jeune, pour le coup, qui est dynamique, qui est très présent sur les réseaux sociaux, qui prend un peu d'ampleur, on l'a vu, qui lui aussi écrit un livre, il faut bien le dire. Est-ce que là aussi, il y a un effet qui peut faire basculer justement la France vers le Rassemblement national?
La popularité de Jordan Bardella, c'est pas que un sondage. Il est venu à Saint-Malo récemment. On a vu, il y a quand même beaucoup de monde. Donc il faut prendre cette menace politique au sérieux. Mais là où j'ai critiqué Nicolas Sarkozy, et vous l'avez souligné, mais là où il a raison, c'est que, et Michel Barnier l'a dit hier aussi, et nous on le dit aussi, c'est qu'il faut s'adresser aux électeurs du Rassemblement national. Pourquoi est-ce que vous en êtes là aujourd'hui? Mais je disais tout à l'heure, sur le congé de naissance, voilà, vous votez pas le PLFSS, le RN ne vote pas, mais vous êtes contre un congé de naissance en plus, vous qui défendez la famille. Bon voilà, je pense qu'il faut vraiment pas perdre le combat politique sur les idées, sur les valeurs, et peut-être que c'est comme ça qu'on remettra un certain nombre de gens qui, oui, sont certainement déçus, exaspérés, et également peut-être par la politique menée par Emmanuel Macron. On le sent, ce ressentiment. On a eu une législative des élections européennes, on le sait, tout ça. Mais je pense qu'il faut pas perdre, voilà, faut pas aller trop sur ses émotions, il faut rester un peu raison gardée, et voir que, en fait, cette dérive, le Rassemblement national ne propose pas de solution aux Français. Je pense que ça pourrait aggraver la situation, et on n'a pas perdu confiance pour essayer de convaincre les gens du RN de revenir un petit peu, peut-être, dans le champ républicain traditionnel, je dirais.
Avec un climat anxiogène, on parle beaucoup de guerre aujourd'hui, on parle d'ailleurs, en parlant de budget, voilà, il y a une augmentation encore du budget des armées, donc il y a aussi tout ce côté anxiogène. Est-ce que ça amène pas aussi les gens à se replier sur une forme de nationalisme?
Oui, et c'est tout à fait légitime comme sentiment. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'il y a eu un vote hier sur le budget de l'armée, alors là par contre, qui est passé très largement et sans problème. Donc effectivement, il y a ce contexte géopolitique qui est pesant. Et c'est normal que ça inquiète les gens. Voilà. Après, là où je veux être rassurant, c'est que, vous voyez, malgré les sorties de Donald Trump au niveau géopolitique, l'Europe, nous, on est des grands défenseurs de l'Europe. Et je pense que l'heure de l'Europe est venue sur le plan de la défense européenne. Et on entend beaucoup de pays, même des Géorgiens, etc. Les États-Unis ont dit on veut lâcher l'Europe, mais c'est le moment à l'Europe de s'affirmer. Donc je pense que le recours... Et c'est là aussi où on est une alternative au RN. Nous, c'est que nous, on parle de défense européenne. Et d'ailleurs, je tiens à saluer hier, parce que notre député Frédéric Petit, qui est député des Français de l'étranger en Europe de l'Est, nous disait qu'il voulait remercier les Bretons, parce que les Bretons ont envoyé des filets de pêche aux Ukrainiens pour protéger contre les attaques de drones. Donc il est allé vérifier, ce sont bien des filets bretons qui empêchent les attaques de drones en Ukraine en ce moment. Donc voilà. Voilà, c'est ça, c'est une petite anecdote, mais je pense que c'est ça aussi la défense européenne, et ces petits gestes comme ça doivent nous donner espoir pour l'avenir.
Voilà, en espérant que Vladimir Poutine n'envoie pas trop de drones au-dessus de la base des sous-marins nucléaires de l'île Longue, ça a déjà été le cas il y a quelques jours. J'avais envie de vous entendre, Tanguy Métrop, je vous avais promis qu'on parlerait des municipales. Là aussi, les gens réclament, les Françaises et Français, les Bretons, les Bretonnes, plus de terrain. Voir leurs élus, pouvoir discuter avec eux, et finalement les municipales, eh bien c'est ça, c'est le rôle du maire aujourd'hui, avec beaucoup de sujets qui les préoccupent également. Je disais tout à l'heure en commençant que vous veniez de Dinan, voilà, Dinan c'est une ville aussi qui est touchée par des problèmes d'insécurité, mais qui travaille aussi à son développement, qui travaille aussi sur de nombreux sujets. Est-ce qu'aujourd'hui la solution finalement à toute cette instabilité, c'est le terrain?
Je crois que l'élection municipale, c'est l'élection locale et reine par excellence. C'est l'élection que les Français préfèrent après l'élection présidentielle. Donc j'espère que les Français seront au rendez-vous de ces élections municipales, qui ne vont pas louper ce rendez-vous qui est très très important. Et je rappelle qu'un grand penseur philosophe qui est Alexis de Tocqueville, que nous on aime beaucoup au Centre, le libéralisme politique, avait dit « le cœur du peuple bat dans la commune ». Et on sent que voilà, c'est quand même un enjeu. Donc c'est l'échelon local de prédilection, l'échelon de démocratie locale de prédilection, et c'est là qu'on résout les problèmes du quotidien. Donc effectivement, à Dinan, voilà, on a un maire qui est Didier Lechien et qui a annoncé qu'il se représentait. Et on en est ravis parce que c'est vrai que c'est un excellent maire qui a fait un très très bon... dernier mandat, depuis 2014, il y a eu un gros travail de fait. Et vous voyez, même les questions d'insécurité sont vraiment prises à bras-le-corps, avec des questions comme la vidéoprotection qui a été mise en place et qui porte ses fruits aussi. Donc là, les chiffres sont bons. Hein. La délinquance a un peu baissé à Dinan. Il y a une qualité de vie à Dinan qui est bonne. Il faudra la préserver. Ce sera un des enjeux de ces élections municipales à Dinan, sans aucun doute.
Vous avez des velléités. Vous avez eu envie d'y aller, comme on dit?
Alors, vous posez la question, donc voilà, alors il n'y a rien d'officiel, mais bon, je vais vous donner un scoop ce matin. Didier Lechien et son équipe, en particulier René Degrenne, l'ancien maire de Lyon, puisque les deux communes ont fusionné, donc Didier Lechien et René Degrenne m'ont contacté, on a échangé, on se connaît depuis longtemps, et ils m'ont proposé de les rejoindre pour ces élections municipales à Dinan, donc voilà, bah... Je vous le livre en exclusivité. Je serai candidat aux élections municipales à Dinan aux côtés de Didier Lechien et René Degrenne. Et j'en suis très heureux parce que c'est ma ville de cœur, Dinan. Voilà.
Et merci d'avoir choisi Bretagne 5 pour nous le dire. Bon, je vous ai un peu tendu la perche.
Oui, c'est vrai. Voilà. Mais vous avez la gentillesse de m'inviter. Donc, à la limite, je vous offre ce scoop.
Voilà. Alors, on a bien noté. Donc, vous reviendrez forcément en campagne, comme l'on dit. Aujourd'hui, l'alternative du centre, ça peut être aussi l'apaisement tant attendu, y compris justement dans nos villes, dans nos campagnes.
Oui, bien sûr. Je crois que on sort d'une séquence qui a été compliquée, mais la culture politique du centre, on voit aujourd'hui que beaucoup de gens seraient tentés de revenir au clivage droite-gauche. Moi, j'ai dit d'entrée de jeu, nous, on n'est pas manichéens.
C'était un peu ma question en creux. Hein.
La vie, c'est pas ça, c'est pas blanc ou noir, c'est pas les méchants contre les gentils. C'est plus compliqué que ça. Et donc, nous, au centre, nous, on sait voir les idées, les valeurs auxquelles on est attaché, et on sait avec qui on peut travailler, avec qui on peut faire des compromis. Sur la base de nos valeurs. Et comme disait Pierre Mendès-France, que François Bayrou a beaucoup recité ces derniers temps, mais il faut savoir quelles sont en politique ses convictions profondes. Et donc quand on a des convictions profondes sur la démocratie locale, sur la décentralisation, nous sommes des Girondins par exemple, voilà, c'est des sujets vraiment qu'on aura à cœur de porter. Et je pense que le centre a encore de belles années et de belles heures devant lui. Et je dirais même qu'en politique, faut pas nous sous-estimer et nous enterrer trop vite, parce que je pense que le centre est toujours incontournable. Donc à un moment donné, les uns et les autres, ils ont beau aller vers les extrêmes, il faudra se retourner vers le centre et il faut raconter avec nous.
Alors j'ai une question très amusante à vous poser en guise de conclusion. J'ai une auditrice qui m'a envoyé un mot qui m'a dit « Que devient François Bayrou ?»
Alors, François Bayrou, eh bien écoutez, je vais vous dire, là en ce moment, il a une grippe. Donc hier, il devait être avec nous, donc voilà. Mais sinon, eh bien écoutez, en dehors de cette péripétie, enfin voilà, on lui souhaite un bon rétablissement. Mais il est candidat à la mairie de Pau pour un troisième mandat. Donc là, en ce moment, voilà, il redevient un citoyen et un maire engagé au service de sa commune. Et je pense que pour être allé à Pau, avoir visité la ville, je pense que la ville a été transformée depuis 2014. Et je pense que les Palois seraient bien inspirés de lui faire à nouveau confiance pour un troisième mandat. Et je sais que voilà, François Bayrou est à la tâche. Et là, aujourd'hui, il est revenu, voilà, au niveau local, en priorité. Il se bat pour sa ville, pour son agglomération. Et c'est une très bonne chose pour cette très belle ville de Pau. Donc on lui souhaite vraiment, moi je lui souhaite en tout cas, de très bonnes chances pour ces élections municipales. Mais voilà, il est là, il est engagé, il est investi, il est motivé. Et il faudra compter aussi avec François Bayrou dans les semaines et dans les années qui viennent.
Voilà, il s'est juste éclipsé si je vous entends. Hein. Voilà. Merci. Infiniment à Tanguy Métrope d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil national du Modem pour la Bretagne et désormais donc candidat sur la liste de Didier Lechien, le maire sortant de Dinan. Alors je le dis dans les Côtes d'Armor pour nos auditeurs lointains.
Oui, pour Dinan-Léon, évidemment.
Voilà, Dinan-Léon, puisque les deux communes, effectivement, ont fusionné. Merci infiniment, je vous souhaite une très belle journée.
Merci beaucoup, bonne journée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.